Recto Verso.
Goeiedag, bonjour, welkom bij Recto Verso. Ik ben Sibo Kanubana en vandaag gaan we naar Brussel. En ma conversation sera en français cette fois-ci. Ik ontmoet deze keer immers Samira Hamouda en Johanna Couvé. Toutes deux travaillent pour CityLab et font un travail vraiment fascinant. Elles travaillent avec des artistes bruxellois qui n'ont pas nécessairement eu les formations et les encadrements formalisés des institutions artistiques et éducationnelles officielles, mais qui ont tout de même le talent et le besoin de s'exprimer artistiquement, et qui ont des histoires à raconter et des points de vue à donner qui n'ont pas toujours l'attention qu'ils devraient avoir dans les circuits officiels. Depuis la pandémie de coronavirus, la vie a beaucoup changé pour la plupart d'entre nous. Pour ceux en situation de précarité, cela est encore plus difficile. Notre conversation se focalisera alors sur comment ces artistes subissent-ils la situation du coronavirus. Ces artistes qui, souvent, ne sont pas des artistes professionnels, qui n'ont pas la possibilité de faire leur travail à temps plein et qui n'ont pas accès facilement aux infrastructures et moyens pour achever leur projet. Et qui combinent leur travail artistique avec des situations parfois matériellement, financièrement et émotionnellement très difficiles. Johanna et Samira parleront aussi de leur travail en relation avec les institutions officielles et comment, dans les faits, elles contribuent à la décolonisation de la production artistique et des institutions à Bruxelles. Et tout cela avec le coronavirus en arrière-plan. Bon, j'ai encore un petit avertissement avant de commencer. Cette conversation a été enregistrée via Skype et le son n'est pas toujours optimal. Au début, vous allez entendre en plus un petit problème d'écho qui cependant disparaît après quelques minutes. Toutes mes excuses pour cela et merci de votre compréhension. Maintenant, sans plus tarder, je vous présente Johanna Couvé et Samira Hamouda. Bonjour Johanna, bonjour Samira. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir une conversation avec moi. On va parler de votre travail et on va parler de CityLab. Je voudrais d'abord vous donner l'opportunité de vous présenter vous-même. Donc, ce serait intéressant de savoir ce que vous faites comme travail, d'où vous venez et en quoi consiste votre fonction chez CityLab. Je propose qu'on commence avec Samira. Qui es-tu et qu'est-ce qu'est CityLab et qu'est-ce que tu y fais?
Alors, je suis Samira Hamouda. Je travaille à CityLab depuis maintenant 2012 parce que j'ai créé le film festival CityMB. Il y a un festival de films qui essaye de mettre en avant tous les réalisateurs qui n'ont pas fait d'école de cinéma. Et ça raconte un peu aussi tout le travail que je fais dans le cadre de CityLab, à savoir manager et coacher des artistes réalisateurs autodidactes qui essayent de raconter la ville autrement, d'apporter une nouvelle narrative dans le paysage audiovisuel bruxellois et belge. Et voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je fais du management, je fais du coaching, je fais de la... J'apporte du contenu, j'essaie aussi de stimuler les personnes à raconter des histoires qui sont intéressantes. Donc, je mets beaucoup de graines de personnes qui ont du potentiel à Bruxelles, mais qui ne sont jamais lancées parce qu'ils n'avaient pas le capital culturel, social et la confiance en soi pour se lancer dans le cinéma. Donc, voilà, je développe des trajets majoritairement dans les arts visuels.
Ok. Merci Samira. Johanna, est-ce que tu fais la même chose environ que Samira? Quelle est ta fonction chez CityLab?
D'abord, c'est un plaisir d'avoir cette conversation avec toi. Je crois que ça va nous nourrir aussi dans l'échange de ce qu'on fait. Oui, je fais à peu près la même chose que Samira, mais quand même très différent. Parce que l'avantage chez CityLab aussi, c'est qu'on peut vraiment donner notre touche personnelle au travail qu'on fait. Moi, j'ai un background en tant que... Donc, moi, je m'appelle Johanna Couvé. J'ai un background en tant que... Je suis formée en tant que sociologue. Et j'ai, dans le passé, travaillé, entre autres, dans le secteur de la santé mentale, mais aussi des ONG. Et petit à petit, je me suis dirigée vers le secteur culturel, où tu es, comme dans d'autres secteurs, très vite confrontée aux inégalités qui s'y trouvent. Et je me suis d'abord formée au sein de l'organisation Zineco, qui est une organisation qui répond aussi aux enjeux qui se présentent dans la ville de Bruxelles. Et petit à petit, là j'avais un travail travail en tant qu'organisatrice donc de la Zineco Parade. Et petit à petit, je me suis dit, en fait, j'ai envie d'être plus proche du travail artistique même. Et ensemble avec mes convictions politiques, je me suis dirigée vers CityLab, qui donc, comme le dit Samira, accompagne des artistes autodidactes qui développent une narration artistique qui répond aux urgences de ce qui se présente comme enjeu dans la ville. Donc c'est souvent des narrations qui pour nous ont beaucoup de relevance et beaucoup de sens. Si nous on n'y trouve pas de sens, alors ça n'a pas sa place au sein des CityLab. Et moi plus particulièrement, je suis responsable pour des projets en art de la scène. Ça veut dire que je travaille avec des gens qui développent leurs pratiques artistiques à travers la danse, à travers le théâtre et à travers le slam. Mais en même temps, parce que ça, c'est des disciplines artistiques assez cadrées. Et ce qui est important à savoir chez CityLab, c'est que c'est des personnes qui se développent, qui sont encore en voie de développement de leur voie artistique et donc qui expérimentent, qui découvrent et qui changent souvent, qui commencent peut-être par la musique et ensuite ça devient de la danse pour ensuite y rajouter du théâtre. Enfin, c'est très multidisciplinaire. Et cette ouverture et ces possibilités sont aussi très importantes pour nous. Voilà, donc il y a certains critères pour être sélectionné chez nous. Et je crois que cette ouverture d'esprit en est un, tout comme le critère d'être autodidacte, donc de ne pas avoir suivi des écoles, disons, conventionnelles artistiques. Et il y en a d'autres encore.
Ok, merci beaucoup, Johanna. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi, la première question que je me pose, et ça n'a rien à voir avec le coronavirus ou avec la crise qu'on vient d'avoir, mais je crois qu'on va y arriver à un certain moment, c'est naturellement CityLab. Bon, le contexte, c'est Bruxelles. Donc ça, on ne l'avait pas encore dit, on est dans le contexte bruxellois. Comment est-ce que les gens vous trouvent? Comment est-ce que si moi, je suis un bruxellois et j'ai envie d'avoir une activité artistique ou si j'ai envie d'être artiste ou je le suis tout simplement dans ma vie quotidienne, mais je n'ai pas d'encadrement, comment est-ce que je peux être au courant que CityLab existe et y trouver accès? Et est-ce que ça coûte de l'argent? Comment est-ce que je fais?
Ce qu'il y a à CityLab, c'est qu'on a chacun une méthodologie différente, parce que c'est vraiment nos personnalités aussi qui influent dans la manière dont on va travailler avec les personnes. Donc, les entrées dans CityLab sont très multiples. Ça peut passer par un appel, par exemple, Johanna va en parler un peu plus tard, mais elle fait des appels à certains moments, des appels à artistes. Ça peut passer aussi parce qu'il faut savoir qu'on est très ancré dans la dynamique bruxelloise, on est très ancré en fait dans tous les réseaux informels, dans toutes les dynamiques en fait à Bruxelles. Donc, ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, notre réseau s'est fort développé. Et par exemple, au niveau du cinéma, pour ma part, ces 8 années avec System D, moi j'ai déjà fait énormément de travail sur le terrain en disant voilà. Si tu as un projet audiovisuel, tu peux venir chez moi, tu peux venir à CityLab. On essaie de travailler avec des personnes relais dans certains quartiers ou des personnes ressources pour leur dire, voilà, si vous avez des personnes qui sont intéressées, qui veulent raconter une histoire, ils peuvent venir vers nous. Et maintenant, un peu, on est... En tout cas, les gens savent qu'à CityLab, il y a une part audiovisuelle, il y a une part art de la scène. C'est assez accessible. On essaie d'être présent dans les réseaux sociaux, on essaie d'être présent... Dans les événements importants à Bruxelles. Moi, par exemple, c'était beaucoup de bouche à oreille, quoi. Tellement que j'ai dû arrêter parce qu'il y a tellement de demandes et que, personnellement, je ne peux pas répondre à toutes les demandes. Ça, c'est pour l'entrée, on va dire, dans CityLab. Je crois que 75%, même 90% en fait, des artistes avec lesquels je travaille, ça s'est fait via, et soit j'ai été les chercher, soit ils sont venus vers nous, quoi. Et ça ne coûte pas de l'argent, en fait. Comment ça se passe? Une personne a un projet ou a une idée de projet, on se rencontre, on essaie de voir qu'est-ce qu'il a envie de faire, comment on peut l'aider, est-ce qu'on est les bonnes personnes pour les aider, est-ce qu'on va les conseiller à d'autres, dans d'autres structures, dans d'autres dynamiques qui vont peut-être répondre plus à leurs besoins, etc. Et puis on essaie de développer un trajet 360 degrés. Quand je dis 360 degrés, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de développer quelque chose pour répondre à tous leurs besoins, quoi. Ça peut passer de coaching, aide à l'écriture, trouver des formations pour les soutenir, trouver un scénariste pour pouvoir coécrire avec la personne, trouver une maison de production pour continuer le trajet du film. Ça peut être aussi organiser de A à Z tout un tournage d'un film, rechercher des financements pour pouvoir soutenir le film. En fait, on essaie vraiment de répondre un peu à tous les besoins dans le trajet de l'artiste, quoi.
Si je comprends bien, vous avez créé un réseau pendant des années et ce réseau existe maintenant. Je crois que la création de réseaux est un élément essentiel dans n'importe quel secteur. Souvent aussi quand les gens vont se former dans les écoles artistiques formelles, dans les académies qu'on connaît, c'est souvent le premier pas pour créer un réseau, parce que les professeurs là-bas, c'est eux aussi qui ont des réseaux dans les musées, enfin dans les centres, dans les maisons formalisées, officielles, que ce soit le théâtre ou les musées ou n'importe quoi, ou le cinéma, hein, bien sûr. Si je comprends bien, vous essayez aussi de créer un pont entre ce monde officiel, formalisé, qui est, disons, le monde du cinéma dans le cas de Samira, ou le monde de la scène à Bruxelles, qui est plutôt très blanc, disons, et très bourgeois, et très classe moyenne, disons, et puis créer un pont avec ceux qui n'ont pas accès à ce monde-là, n'ont pas accès à ce réseau-là. Est-ce que je comprends bien que vous créez ce pont?
Oui, effectivement. Donc, on est des coachs artistiques, on est des managers culturels, mais on est aussi des traductrices institutionnelles. Ça veut dire qu'on se trouve vraiment sur le pont entre ce qu'on appelle les réseaux formels et les réseaux informels. Et donc, beaucoup de notre travail existe en faire cette traduction entre ce que nous, on accompagne, les personnes qu'on accompagne et tous les enjeux qui se trouvent sur le terrain, entre guillemets, et puis faire traduire ça dans un contexte institutionnel qui, comme tu dis, est souvent très élitiste, surtout dans le monde de l'art, qui est souvent très blanc et qui réfléchit et cadre selon une perspective plus privilégiée que ce que est la situation dans laquelle beaucoup de nos artistes se trouvent. Et donc, ça veut dire qu'on fait un travail de traduction, mais aussi de revendication des intérêts des personnes avec qui on travaille, qui, par exemple, n'ont pas les statuts d'indépendants, pas les statuts d'artistes, qui n'ont pas les statuts ou les cadres qu'il faut pour pouvoir accéder aux maisons de prod, aux collaborations dans les grandes maisons de théâtre, les grandes maisons culturelles, etc. Et donc, on essaie d'ouvrir des portes, et si elles ne s'ouvrent pas, on essaie de les casser. Et ça, c'est un travail de lutte constante, en fait, parce que de faire comprendre, on le sait très bien, je crois, mais faire comprendre et défendre les intérêts des personnes qui ne rentrent pas dans les cadres, c'est une bataille constante. En fait.
Bah oui, je m'imagine très bien que ça doit être une bataille constante, parce que dès que l'art est institutionnalisé, il est quelque part aussi neutralisé de son effet politique ou social. Comme vous, j'avais bien compris que une grande partie de la pratique artistique que vous essayez de soutenir est une pratique artistique qui a une pertinence sociale pour les gens qui vivent dans la ville. Donc ce n'est pas nécessairement de l'art pour de l'art, c'est de l'art qui a un message sociopolitique, disons, qui essaye de faire bouger les choses, qui essaye de faire réfléchir les gens. Et j'ai l'impression, moi de mon point de vue, que dès que l'art est institutionnalisé, dès qu'on le met dans un musée ou sur une scène, dans une maison formalisée, que ça perd un peu de sa force. Naturellement, c'est un paradoxe, parce que c'est un peu cru comme comparaison. Ils ont l'art de la rue et puis l'art de l'institution. Et c'est pas binaire, naturellement, hein, c'est plus compliqué que ça. Mais il y a quelque part une force qui se perd dès qu'on institutionnalise l'art, je crois. Et qu'elle devient dépendante de subventions, elle devient dépendante, en fait, de ce que l'ordre politique voudrait que l'art soit. Et n'est plus libre, en fait, à faire n'importe quoi et à casser les portes comme vous essayez de le faire. Maintenant, une partie de votre travail consiste alors aussi à aller parler avec les gens qui représentent ces institutions, les gens qui travaillent dans les institutions qui sont subventionnées et qui ont un cadre très, très structuré de ce qui est l'art et ce qui ne l'est pas. Je suppose que... comment est-ce que vous pourriez comparer ces deux éléments? C'est quoi la plus grosse partie de votre travail? Cet investissement dans les institutions et essayer de casser les portes? ou faire en sorte que ceux qui ne sont pas, ceux qui sont dans la pratique artistique mais n'ont pas d'encadrement formel, soient mieux encadrés et donc soient capables à faire de l'art sans nécessairement devoir intégrer les institutions.
C'est vrai que, par exemple, par rapport à Système D, on dit que Système D, en fait, c'est une réponse artistique aux problèmes politiques. Donc, c'est vrai qu'il y a une grande partie, enfin, il y a une partie du travail qui est celle de faire de la médiation avec les institutions et en fait de déconstruire aussi leur manière de fonctionner, leur manière de travailler avec les artistes autodidactes. Leur faire prendre conscience que leur programmation est trop blanche, que dans les espaces de pouvoir et de décision, c'est aussi trop blanc, qu'il faut être beaucoup plus inclusif avec nos artistes. Mais ce n'est pas personnellement une énergie que j'aime bien donner. C'est-à-dire qu'à un moment, on a essayé de négocier, et c'était assez difficile, même s'il y a quelques changements. Mais d'un autre côté, moi, je préfère beaucoup investir mon énergie dans la création artistique, et puis à un moment pour dire aussi, finalement, nous, on est là, on crée. Et on va devenir en fait un contre-pouvoir. À un moment, les institutions, ils seront obligés de nous programmer parce que c'est nous qui remplissons les salles, parce qu'on raconte des histoires qui intéressent un vrai public, parce que finalement, on devient, pour Système D, hein, au départ, on avait vraiment du mal, par exemple, à trouver un espace pour pouvoir projeter le festival. Mais quand on voit qu'il y a 3 000 personnes qui viennent voir les films, qu'on a plus de 400 films par an qui sont inscrits, qu'on représente toutes les dynamiques bruxelloises, qu'en fait on est là, qu'on est présent et que le pouvoir il est chez nous, l'institution à un moment elle est obligée aussi de s'adapter en fait, de s'adapter en fait à ces nouvelles dynamiques, d'essayer de travailler avec d'autres artistes. Donc c'est vrai que je passe vraiment du temps à négocier, à sensibiliser, à faire de la médiation avec les institutions, mais j'essaie de beaucoup plus investir mon temps dans les trajets artistiques, et surtout avec, parce qu'il y a souvent des personnes relais aussi dans des institutions, donc il y a des personnes qui sont militantes, politisées, qui sont des personnes relais qui sont dans les blocs médiation culturelle, par exemple, qui aussi essayent de négocier, qui sont des personnes relais pour nous, pour pouvoir discuter avec la direction, changer certaines choses de l'intérieur. Voilà, à un moment, moi, je crois au fait que le pouvoir est chez nous et que c'est de par cette création, ce foisonnement de création, etc., qu'à un moment, l'institution va devoir plier le genou, quoi, en fait.
Je crois que plier les genoux, c'est une très bonne expression. J'aime beaucoup. Et puis, ça m'évoque beaucoup de choses. En fait, le travail qu'on fait, c'est, comme tu dis, le pouvoir pour nous se trouve sur le terrain. Et donc, on fait un travail constant de déconstruction et de reconstruction. Déconstruction de ce qui existe et ce qui est trop cadré pour les personnes avec qui on travaille. Et une reconstruction de, ça veut dire quoi la scène? Ça veut dire quoi une maison culturelle? Ça veut dire quoi l'art avec un grand ou un petit A? Ça veut dire quoi être artiste? Ça veut dire quoi une profession artistique? Etc., etc. En fait, on travaille beaucoup hors cadre. On voit aussi que dans le monde institutionnalisé, en fait, on fait bouger les cadres constamment. Parce qu'au moment que, par exemple, on va demander des subsides, eh bien, les artistes avec qui on travaille ne sont pas vus comme des artistes. Ou bien, comme on a une structure qui est trilingue, eh bien, par exemple, les artistes avec qui on travaille, au moment qu'on demande des subsides néerlandophones, ils sont trop francophones et vice-versa. Et donc, on essaye de nous faire rentrer dans des cases qui ne sont pas faites pour nous, en fait. Qu'est-ce qu'on est alors? Est-ce qu'on doit demander des subsides, entre guillemets, égalité des chances et diversité? Mais c'est pas ça le travail qu'on fait. Et donc c'est une constante conversation qui, comme Samira le dit, peut être très fatigante. Donc on essaye de quand même diriger notre énergie là où elle est la plus importante, ça veut dire chez les artistes et chez le travail artistique, mais on ne peut pas le faire sans faire face à ces institutions. Parce qu'évidemment, on a besoin des moyens. Et là, moi, personnellement, je vois que j'interprète mon rôle un peu différemment parce que je suis une personne blanche. Et comme au sein de ce monde institutionnalisé, tu es souvent face aux personnes blanches avec des mentalités très blanches, j'y vois une part de ma responsabilité de vraiment avoir cette conversation et faire ce travail de déconstruction en tant que personne blanche. Voilà, donc là aussi, je crois que les interprétations du travail sont différentes.
Ok, super intéressant. Ouais, si je comprends bien, c'est presque remettre en question. Bah, Johanna, tu l'as dit très bien, déconstruction, reconstruction. Donc c'est pas seulement question d'agrandir les chances de ceux qui ne font pas partie du cadre institutionnalisé, mais qui ont quelque chose à dire, quelque chose d'important à dire et quelque chose à faire aussi. Mais c'est aussi question de vraiment remettre en question les structures qui existent déjà. J'adore ce travail. Je crois que ça doit être très très fatigant aussi, en même temps, mais en même temps aussi très valorisant, parce que vous faites quelque chose, oui, quelque chose out of the box, hein, littéralement, ce qui est super important. Maintenant, quand je pense à la crise de Corona qu'on vient de passer, ou on est dedans, enfin, la crise en général, on est déjà dans une crise au moins depuis 2008, et ce n'est pas seulement une crise de Corona, je serais quand même curieux à savoir, j'ai remarqué que les institutions artistiques en général se sont tous mis en retrait, tout s'est arrêté, tout le monde a arrêté de travailler, les gens ont été au chômage, littéralement. Et on essaye de repenser comment on va organiser l'activité artistique. Et certaines choses se font, mais d'un côté, il y a cette possibilité, cette opportunité de rechanger tout, comme vous êtes en train de le faire depuis des années, et de repenser tout, et de ramener en fait l'art auprès de la population, et pas seulement l'art pour l'élite. D'un autre côté, il y a cette possibilité que ça devient encore plus élitiste, et que ça se démocratise encore moins. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que pour vous, la crise qu'on a passée les derniers mois, enfin depuis le mois de mars, est-ce que ça a été une opportunité, ça a été une chance? Est-ce que ça a changé d'une manière importante votre travail? Et est-ce que ça a influencé fortement? Est-ce que ça vous a immobilisé? Ou est-ce que non, ça ne vous a pas immobilisé?
Alors, comment je vais répondre à tout ça? Donc, déjà, peut-être, comment mon travail s'est transformé pendant la crise Corona, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, concrètement, pendant le confinement? C'est vrai que dans un premier temps, étant donné qu'on travaille avec des artistes autodidactes, qui sont souvent dans des situations précaires, on va dire, ou très précaires, à savoir pas de statut d'artiste. Ils ont des boulots à côté de leur projet artistique, s'ils ont des boulots. S'ils n'en ont pas, ben, ils se sont retrouvés dans des situations socio-économiques quand même très difficiles. Donc j'ai quand même passé, par exemple, les 3 premières semaines avec une fonction très sociale, c'est-à-dire solidarité, qui a besoin de quoi, comment on s'organise. Il y avait des personnes qui étaient au niveau de leur santé mentale très fragiles, il y avait des personnes qui n'avaient pas d'argent pour pouvoir payer leur loyer ou avoir des courses. Donc, j'ai passé les 3 premières semaines, le premier mois, vraiment à activer un réseau de solidarité entre artistes, entre personnes du mouvement, pour qu'il y ait une entraide. Et aussi, en tout cas, j'ai eu énormément de moments de discussion, des meetings Zoom à 7, 8 artistes pour pouvoir en fait, exprimer un peu comment on vit cette crise, qu'est-ce qui se passe, comment ça impacte en fait mon travail artistique, comment ça m'impacte moi en tant qu'individu dans cette société, comment je peux encore être actif politiquement en sachant que je me sens immobilisée, parce que voilà, c'est un peu un sentiment qui revient beaucoup. On m'a coupé les ailes, on m'a coupé les bras, on m'a coupé les jambes. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup focus mon travail sur l'écoute, la solidarité, re-questionner la société, comment on va faire demain, quel futur est possible en fait. Et en parallèle, j'en profitais pour ressortir tous les éléments en disant comment est-ce que vous voulez que CityLab vous aide dans le futur en fait. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que vous avez besoin en fait pour vos projets artistiques, pour votre épanouissement artistique, etc. Donc il y avait vraiment cette fonction sociale, ces espaces de discussion safe, et aussi en parallèle beaucoup de dossiers en fait. On profitait aussi de ce moment pour pouvoir essayer de faire des demandes de financement, de relire les dossiers, de relire les scénarios, d'essayer de voir comment on peut pérenniser le projet en essayant de retrouver des fonds, parce que finalement il faut de l'argent pour pouvoir avoir un processus artistique convenable, on va dire. Donc ça, c'est un peu la manière dont mon travail s'est articulé entre social et artistique et gestion de dossier.
Ce que tu m'expliques là avec la crise, quand tu dis on m'a coupé mes ailes, c'est plutôt les mesures qui ont coupé les ailes. C'est pas nécessairement le virus qui a coupé les ailes. Et donc les mesures, c'est ça qui a accentué cette différence sociale, qui a accentué ces inégalités, plus que le virus même. Bon, maintenant, ce que toi tu as dit, se focaliser le premier mois sur la santé socio-psychologique des individus qui sont impliqués dans les projets. Je crois que beaucoup de gens reconnaissent cela dans beaucoup de secteurs différents. Mais maintenant, je me demande, le travail même, et peut-être que je regarde maintenant Johanna, puisqu'elle travaille sur le travail artistique sur la scène, ce qui implique directement le contact, le social distancing, c'est presque impossible dans ces contextes-là. Enfin, je m'imagine, il faut repenser le truc complètement. Johanna, comment est-ce que tu as fait ça? Comment vous avez organisé vos rencontres? Ce retrait le premier mois, mais je suppose qu'entre-temps, vous vous revoyez, ou comment ça se passe?
Alors, comment ça se passe? Bah, comme l'explique Samira déjà, notre contexte fait face aux urgences de la société et le corona ne fait qu'accentuer les urgences qui sont déjà là. Donc pour nous, oui, corona s'est imposé, entre guillemets, mais notre méthodologie et notre manière de travailler sait très bien répondre à ça, dans le sens où on travaille avec une méthodologie de flexibilité et de réponse enfin, une attitude au taquet à tout instant. Et donc, comme elle l'explique aussi, au départ, on a un peu checké avec tout le monde comment les gens allaient et comment allait leur santé et leur santé mentale. Mais aussi, pour moi, la question, c'était souvent, est-ce que tu sais payer les loyers le mois prochain? Ça, c'était les questions qui se posaient. Et des fois, ce n'était pas le cas. Et donc, on trouvait des solutions par rapport à ça. Comment vont les parents? Dans quelle situation est-ce que tu vis? Est-ce que dans la situation dans laquelle tu vis, tu es capable de continuer le travail artistique, oui ou non? C'était souvent pas le cas. Ce qui est le cas parce que les cadres, pendant le corona, et la manière aussi dans laquelle les institutions répondaient, étaient souvent, bah, les artistes sont capables, à la maison, de continuer leur travail. Parce qu'ils ont un ordi, parce qu'ils ont un espace studio, parce que ils ont des maisons grandes où on arrive à se concentrer, etc. Ce qui n'était pas toujours le cas pour les artistes avec qui on travaille. Et donc, on essayait de trouver des solutions par rapport à ça. Et je dois dire qu'on a trouvé des solutions. Mais c'est grâce aussi au fait qu'il y a une résilience extrême chez les artistes avec qui on travaille. Une personne m'a dit, c'est une personne qui se trouve en situation sans papier depuis assez longtemps, et m'a dit, bah, pour moi, il y a très peu qui change, parce que je suis en confinement depuis très très longtemps. Et donc, corona ou pas, ça continue, quoi. Donc voilà, comme je disais, je crois que corona n'a qu'accentué ces injustices de liberté de mouvement, de liberté d'accès, etc. Et donc, effectivement, dans les arts de la scène, eh bien, beaucoup de choses ont changé parce que les scènes étaient fermées et on ne pouvait plus se retrouver. Et donc, le travail qu'on a continué ensemble avec les artistes, c'était, bah, un travail de rester positif, de renforcer la présence online. Donc, beaucoup d'artistes sont focalisés sur la scène digitale, donc les médias sociaux. On commençait à lancer, oui, des vidéos. On commençait, ça aussi, chez les danseurs particulièrement, une grande partie de leurs revenus, c'est les cours de danse. Et les écoles de danse se sont fermées aussi. Et donc, ça veut dire que les revenus des danseurs s'est coupé de manière, enfin, le revenu irrégulier s'est coupé de manière conséquente. Et donc, non seulement les présentations ne se faisaient plus, et donc, évidemment, avec les artistes avec qui on travaillait, comme c'était souvent des contrats flexibles, ben, ça voulait dire aussi qu'il n'y avait plus de revenus. Donc, ils étaient très innovatrices dans la recherche de revenus autres, par exemple par une présence online, en donnant des cours online, etc. On a travaillé sur finir le travail qu'on avait déjà entamé. Et on a réfléchi à comment créer du nouveau travail aussi à long terme. Donc, on a écrit beaucoup de dossiers, commencé à planifier sur l'après-corona ou le peut-être si corona continue, de quelle manière est-ce qu'on change la scène. Mais encore une fois, étant donné qu'on a une méthodologie très flexible, on change tout le temps la scène. Pour nous, la rue, c'est la scène aussi. Ou bien les stations de métro peuvent être une scène aussi. Donc que ce soit dans une maison de théâtre ou dans la rue ou sur une plateforme online, pour nous, l'important, c'est que la narration et le sens du travail artistique à partager. Ça, c'est le plus important. Et alors, concrètement, beaucoup de choses se sont planifiées sur plus long terme. Donc, les présentations qui étaient censées se faire en mai-juin, maintenant, vont peut-être se faire en septembre, octobre, novembre. Je dis peut-être parce qu'évidemment, on ne s'est pas très bien planifié, parce que les choses peuvent encore changer à tout moment. Et on fera des présentations avec un public de nombre beaucoup plus restreint. Donc peut-être des présentations pour 15 personnes, pour 30 personnes. Mais ce n'est pas plus mal parce qu'on fait beaucoup de présentations de work in progress. Et là, c'est très chouette d'être en petit comité et d'avoir aussi un échange sur comment est-ce que le travail a été reçu, de quelle manière est-ce que le message est passé et comment on pourrait changer. Donc, ça devient, en fait, la présentation ou l'idée de la présentation change en moment de présentation avec beaucoup de partage et d'échange. Et c'est très intéressant aussi. Donc, voilà.
Ouais, ça m'a l'air très intéressant parce que c'est vrai que les arts de la scène sont souvent conçus avec l'idée qu'il y a une scène et puis il y a un public et que là, si justement on doit avoir cette distance, mais justement ça agrandit la possibilité d'avoir une conversation avec le public, avoir une participation avec le public, avoir le dialogue en fait et de voir la performance comme quelque chose de différent qu'un produit fini qu'on met sur une scène et qu'on observe. Enfin, je crois que beaucoup d'artistes ont déjà essayé de casser le quatrième mur de la scène, mais là on est obligé à le faire quoi. Donc ça ouvre plein de choses. C'est intéressant parce que j'ai entendu beaucoup parler du fait qu'avec le coronavirus il y a une explosion de la créativité, hein, donc après que beaucoup de choses sont possibles, bon, les gens sont confinés, donc il y a d'autres choses qui se passent. Je suppose aussi que dans le contexte plutôt de système D et de l'art audiovisuel, que bon, sauf à part les limites techniques, le studio et tout ça, il y avait des opportunités d'être créatif et d'utiliser les médias sociaux aussi d'une manière différente ou d'avoir d'autres opportunités pour créer. Samira, tu pourrais me aussi donner des exemples de ce qui s'est passé les derniers mois dans ce contexte-là?
Ce qui est important à dire déjà, c'est que c'est vrai qu'il y a une partie des personnes qui étaient vraiment dans une explosion de créativité, mais il y en a beaucoup qui étaient tétanisées et bloquées en fait dans leur créativité, qui n'arrivaient pas en fait à avoir des perspectives d'avenir, enfin, qui n'arrivaient vraiment pas ni à écrire, ni à lire un livre, ni à réécrire le scénario. Enfin, vraiment, il y avait une partie des artistes avec lesquels je travaille qui était vraiment bloquée. De l'autre côté, il y a d'autres réalisatrices et réalisateurs avec lesquels je bosse qui ont vraiment utilisé ce confinement pour raconter aussi ces inégalités. Je parlais par exemple de Najib Chahiri, le rappeur Code Rouge, qui a fait un film qui s'appelle « Le jour qui vient ». Et qui, en fait, a réalisé un documentaire en interviewant plusieurs personnes dans différents domaines pour montrer, en fait, à quel point les mesures liées au coronavirus ont augmenté ces inégalités dans le secteur des prisons, dans le secteur, dans le réseau des personnes sans papier, etc. Donc, il a réalisé un documentaire qui est très très intéressant, que je conseille, qui est produit par le CVB. Il y a également le collectif Védart qui a profité de ce confinement, mais surtout des injustices liées à ce confinement, parce qu'on a eu le décès du jeune Adil Anderlecht lié aux violences policières. Et directement, elles ont rebondi, elles ont récolté via Instagram des milliers de témoignages de jeunes via Instagram et WhatsApp autour des violences policières pour en faire une installation audio, par exemple. Il y a Mazirène également qui a profité en fait de ce confinement pour créer énormément de contenu digital pour raconter un peu tout ce qui se passait aussi par rapport à Black Lives Matter, à l'assassinat de George Floyd, de Adil, l'histoire du jeune Mehdi également qui a été assassiné. Donc, c'était vraiment en fait une créativité qui était une réponse en fait aux injustices qui se passaient à l'extérieur de la maison, quoi. Parce que comme je te disais, ces mesures en fait fait que tu te sens couper les ailes, mais tu te sens aussi un peu dépolitisé, en fait. Il y a quelque chose comme ça, il y a une atmosphère qu'on nous a mis, comme si tu sors, tu vas mourir. Tu vois, il y avait quelque chose comme ça. Donc, ne sors pas, même s'il y a des gens qui seront tués dehors, tu vois, ne sors pas trop. Il y avait quelque chose comme ça où on nous disait, reste chez toi à la maison. Et donc, en fait, on nous dépolitisait un petit peu. Et c'est pour ça que je trouve intéressant les exemples que j'ai cités, parce que en restant chez eux, ils ont réussi en fait à raconter et à amplifier cette voix comme ça qu'on entendait de ce qui se passait, par exemple, à Anderlecht avec les émeutes, etc. Donc, voilà, il y a eu comme ça, d'une part, des artistes ont été tétanisés un peu, bloqués, manque de perspective, je ne sais pas si je vais vivre demain, il y a vraiment quelque chose comme ça, peu d'avenir et peu de projection, donc aussi bloqué dans son processus créatif, et puis d'autres qui en fait ont vraiment profité de ça pour laisser de côté leur projet et vraiment s'intéresser de qu'est-ce qui se passe dans la rue en fait, quels sont les enjeux aujourd'hui et comment moi je peux amplifier la voix de ces enjeux et de ces inégalités dans la rue.
Ouais, je suis content que tu parles aussi de Black Lives Matter et de justice pour Adil. Ce qui s'est passé en juin, c'est surtout que la bombe a explosé. Et c'est vrai que je vois aussi un lien direct entre le confinement et le ras-le-bol et en fait les inégalités sociales qui deviennent très claires. En même temps, naturellement, je me pose la question, parce qu'on a parlé des médias sociaux et des opportunités que les médias sociaux nous apportent pour continuer à être productif, continuer à raconter l'histoire qui doit être racontée. En même temps, je me pose la question, bon, les médias sociaux ont aussi un côté problématique puisque le dialogue qui est hyper nécessaire devient en fait des conversations de sourds et que chacun est dans son coin en train de produire son truc pour son public, mais qu'on ne partage plus les publics. Plus, c'est peut-être pas bien dit, parce que je crois pas que les publics, disons, dans des activités artistiques institutionnalisées, que là aussi, c'est en fait un petit monde très restreint et tout le monde se connaît et tout le monde... Enfin, il y a peut-être une petite conversation dans ce petit monde-là, mais en fait, ça ne touche pas à beaucoup de monde. Mais j'ai un peu cette crainte que c'est tous ces îlots qui sont là et que ce n'est pas cette promesse de conversation qu'on devrait avoir. Naturellement, est-ce que vous remarquez cela ou est-ce que vous remarquez un peu les risques des médias sociaux ou le danger que cela pourrait présenter pour les artistes et l'histoire qu'ils essaient de raconter, pas seulement à leur propre paroisse, mais aussi à la société en général. Et comment aussi cela est alors représenté dans les médias, à part après, parce que c'est peut-être les médias aussi qui polarisent, qui créent une caricature de quelque chose qui est en fait très nuancé.
Oui, encore une fois, ça évoque beaucoup de choses. Et en fait, la polarisation, c'est un mot qui me tracasse un peu ces derniers jours. Parce que, par exemple, le Premier ministre hollandais a refusé de proposer ou de présenter ses excuses par rapport à notre passé colonial. Notre, ça veut dire le passé colonial hollandais, à cause de la peur de la polarisation. Alors là, je me dis, polarisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on commence à... Enfin, qu'on commence, c'est quelque chose qui date pas de maintenant, c'est quelque chose qui a été fait depuis très très longtemps, mais ça veut dire qu'on protège les intérêts, la propriété et bien aussi les sentiments les personnes privilégiées, en fait. Ça veut dire ça, la polarisation, pour moi. Et donc, c'est comme si tu as une peur d'entendre des voix qui ne sont pas censées être entendues dans la société pour maintenir le statu quo. Et je trouve que c'est donc un terme assez... un terme que je comprends très bien, mais qui est aussi problématique en soi et qu'il faut mettre en question. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des différents, entre guillemets, camps qui se créent et qui prêchent pour leur propre paroisse et qu'effectivement, les médias sociaux renforcent ces dynamiques. Mais en même temps, les médias sociaux créent des plateformes où les news alternatives et les voix qui ne sont pas représentées dans les médias mainstream sont entendues et sont partagées. Et donc, ça crée des espaces de parole et de discussion pour certaines communautés qui peuvent être très fructueuses et qui peuvent permettre de développer des vraies stratégies de lutte. ce qu'on a vu énormément pendant le temps de Corona et aussi pendant la préparation des manifestations de Black Lives Matter, la discussion sur comment continuer cette lutte contre le racisme et contre les inégalités qui sont là. Et donc, c'est à la fois, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, de peut-être créer des petits îlots de conversations et d'idées politiques, mais en même temps, ça permet d'avoir des non-mixed spaces où justement la parole n'est pas tout le temps mise en question, où on n'est pas tout le temps attaqué. Enfin, ça dépend évidemment parce qu'il y a aussi des personnes qui justement sur les médias sociaux sont encore plus attaquées qu'ailleurs. Mais donc c'est pour moi une discussion très, très nuancée avec beaucoup... Donc les médias sociaux ont effectivement leurs contraintes mais aussi beaucoup de possibilités.
C'est intéressant parce que d'une part, moi je vois avant les médias sociaux... Quelque part, l'homogénéité de certains secteurs culturels ou certaines institutions n'a jamais été, enfin, est remis en question, mais pas vraiment d'une manière structurelle. C'est dès que, par exemple, des personnes, c'est même pas des groupes homogènes, mais qu'on catégorise comme homogènes, s'organisent et parlent d'une voix, qu'on problématise cette activité-là. Moi, je comprends que CityLab travaille avec des gens de groupes très divers, donc c'est vraiment pas... c'est vraiment pas un groupe ethnique ou un groupe politique ou un groupe religieux, non. C'est justement c'est la diversité, la vraie diversité bruxelloise qui n'est pas représentée dans les institutions formelles, qui n'est pas présente là-bas. Et c'est justement ça qu'on considère comme de la polarisation, tandis que c'est tout le contraire. Quand je vois comment la manifestation de Black Lives Matter a été représentée dans les médias flamands, parce que bon, c'est les médias que moi je suis. J'étais choqué par le fait que on représentait ça comme une question. C'est la première fois que j'entendais le mot Afro-Vlaming qui tombait dans les médias officiels, tandis que il s'agissait de beaucoup plus que ça. Naturellement, le trigger, hein, donc c'était Black Lives Matter. Il s'agit naturellement des corps noirs et du racisme anti-noir, mais en même temps, justice pour Adil était impliquée, la transphobie était impliquée, l'homophobie était impliquée, les inégalités socio-économiques étaient impliquées. Il y avait un public super, enfin les gens qui étaient là, les 20 000 personnes qui étaient là, ce n'était pas que des noirs, c'était le tout de Bruxelles était représenté là, et ça a rapproché les blancs, les bruns et les noirs tous ensemble, en fait, pour attaquer une injustice qui fait partie. Donc, en fait, un peu attaquer la blanchité et attaquer cette homogénéité-là à laquelle on devrait tous se référer pour être légitime. Alors, c'est très important, mais après c'est comment c'est médiatisé, parce que moi, je suis complètement d'accord que c'est bien qu'il y ait ces endroits dans les médias sociaux où on ne doit pas toujours se justifier, où on ne doit pas toujours justifier sa présence et devoir se défendre pourquoi on est là et pourquoi on pense telle et telle chose. Ça m'aide aussi à pouvoir me libérer, à pouvoir me reposer intellectuellement aussi. En même temps, c'est comme si, on n'a pas le droit de le faire, tandis que, si je peux le dire aussi, si je peux le dire comme ça, pour beaucoup de Blancs, ce n'est même pas une question. Ils ont cette situation tous les jours. Ils peuvent tous les jours être relax avec eux-mêmes et n'ont pas à se justifier, à se légitimer pourquoi ils font telle chose ou pourquoi ils pensent telle chose. Donc je suis quelque part d'accord avec toi, mais en même temps, j'ai un peu peur comment ces mouvances sont médiatisées. Et je me pose la question... Dans quel sens votre travail et le fait que ce travail se déplace pour une bonne partie à cause de la situation, à cause des mesures, se déplace en ligne, dans quel sens en fait vous perdez peut-être, pas complètement, mais vous perdez peut-être ce contact à la possibilité de casser justement les portes des institutions, de faire ce travail-là, bien que ce n'est peut-être pas le plus important travail, mais ce lien avec... avec les institutions formalisées, quoi, et que ça se perd, et que voilà, chacun se retire dans son petit coin, et voilà, quoi. Si vous comprenez où je veux en venir, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus.
Bah, déjà, je crois que suite à ce qui s'est passé et aux manifestations qu'il y a eu, on ne reçoit pas moins, mais plus de demandes pour venir illuminer la tête blanche sur comment maintenant distribuer le pouvoir. Donc, il y a beaucoup d'associations qui sont... Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui travaille avec des jeunes racisés et qui m'a dit, voilà, on reçoit beaucoup de questions par rapport à ce qui se passe et on ne sait pas comment y répondre. C'est une personne blanche. Et donc, elle me dit, est-ce qu'il y aurait moyen de venir travailler avec nous et de nous faire comprendre ce qui se passe et comment répondre par rapport à ça. Et donc, je crois que ce qui s'est passé avec la mort de George Floyd, mais aussi à Bruxelles, n'a pas diminué le besoin de débat, mais a fait sentir à beaucoup d'institutions qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a une montée de conscience et qu'il y a du travail à faire, ce qui en soi est positif. Maintenant, la tendance que je vois aussi, c'est « Ah, tout le monde est en train de se conscientiser et pense que lire et savoir plus sur c'est quoi la blanchité et c'est quoi ces inégalités et c'est quoi le racisme, etc., etc., que c'est assez. » Et c'est là où moi je vois un grand problème parce qu'on est vraiment en attente d'action. Et c'est vrai que cette conversation-là, pour le moment, on ne l'a pas vraiment avec l'espace de parole ne le permettent pas forcément. Voilà pour le moment.
Il y a beaucoup de choses qui sont connectées ici. Mais peut-être pour réagir sur ce que Johanna vient de dire et peut-être faire un lien avec ce que toi tu pourrais dire, Samira, c'est que mon expérience montre que parfois la conversation de vive voix, quand on est vraiment dans une salle avec des gens et qu'on discute, ouais, y a beaucoup de choses qui se passe à ce moment-là, beaucoup plus que juste la parole et l'information qu'on est en train de partager. Et que, quelque part, les médias sociaux rendent la conversation, même s'il y en a une, assez stérile. Je suis toujours... On est déjà en 2020 et ça fait des décennies que je parle de ces choses-là. Et je suis encore toujours choqué parfois dans des conversations live avec des gens par l'ignorance qu'il y a, par ceux qui ne savent pas, ceux qui ne comprennent pas, et que je dois recommencer les explications, que je dois vraiment bien illustrer, et que je dois parfois expliquer des trucs que je croyais faisaient partie du sens commun, que tout le monde savait bien ces choses-là, et qu'il faut à chaque fois réexpliquer, et que je remarque que dans les médias sociaux, je n'ai plus cette... dans la sphère digitale, en ligne, je n'ai plus cette patience. Je n'ai plus cette énergie, tandis que j'ai beaucoup plus cette énergie-là quand j'ai une personne devant moi, que je vois que cette personne est bien intentionnée et que j'ai la possibilité d'avoir une conversation avec cette personne-là, tandis que j'ai beaucoup plus vite tendance à ne pas avoir cette conversation-là ou à refuser à avoir cette conversation-là sur les médias sociaux. Maintenant, quel est le lien avec la pratique artistique? Pour moi, c'est ça aussi, la pratique artistique, c'est quelque part aussi... essayer d'avoir une conversation avec des gens, essayer de leur raconter une histoire. Mais peut-être que pour toi et pour la pratique artistique audiovisuelle, cela est moins pertinent dans le contexte du corona. Quand je pense à moi-même et mon passé comme musicien et rappeur, je crois que c'est beaucoup plus important à ce moment-là. Et je ne peux même pas m'imaginer comment la dynamique peut changer complètement si le rap... ou si le slam ne serait qu'un endroit en ligne. Je ne sais pas si la pratique audiovisuelle a les mêmes sensibilités ou est confrontée aux mêmes problèmes. Comment ça se passe pour les artistes avec qui tu travailles, Samira?
C'est vrai que par rapport aux arts de la scène, par rapport à la musique, le cinéma, c'est quelque chose en fait, qui peut, en tout cas en partie, dans une première ou deuxième phase de la création d'un film peut se passer de manière virtuelle, quoi. Même si les moments de projection sont des moments très très importants, c'est des moments où ton histoire est confrontée à un public, c'est le moment où le dialogue commence à s'ouvrir, c'est le moment où les questions se posent, des réponses sont données, et c'est là qu'aussi les synergies s'activent et grandissent et créent de nouvelles plans pour d'autres projets par après. Donc, Personnellement, en termes d'impact, nous, ce que ça nous a fait, c'est qu'on a dû déplacer notre image. Donc, ça s'est déplacé dans le temps. Donc, au lieu de le faire cet été, ben, on va le faire au mois d'octobre, novembre, on l'espère, hein, si c'est possible, si les conditions sanitaires nous le permettent. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu un impact, on va dire, surtout que dans les projets avec lesquels je travaille, on n'était que dans la phase pré-production, écriture. On a beaucoup travaillé sur une planification, revoir comment planifier les choses dans le temps, etc. Donc, ça n'a pas eu un impact, on n'a pas perdu. Si, on avait trois moments de projection, en fait, qui étaient des moments de projection, mais surtout des moments où on pouvait récupérer l'argent, parce qu'étant donné qu'on a du mal à trouver des financements, nous, comment on fonctionne, on aime bien faire du troc ou du mécénat de compétences ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on a des accords avec certaines structures où on leur dit, voilà, on projette ça, mais vous nous donnez une certaine somme, et cette somme va nous aider à la production d'un autre film, des choses comme ça. Donc ça nous a... parce qu'on avait budgétisé cet argent dans notre projet, mais avec CityLab, on s'est quand même arrangé, on s'est organisé en interne pour se dire, voilà, même si cet argent ne rentre pas, nous, on va essayer de tout faire pour le trouver autrement, mais il ne faut pas que ça impacte l'artiste. Donc, on a eu à un moment des réajustements au niveau budget avec notre comptable, etc., pour se dire, voilà, nous, on ne veut pas que toutes les demandes, tout l'argent qu'on avait présupposé avoir et qu'on n'a pas à cause de Covid, on ne veut pas que ça impacte les artistes. Donc, on va prendre la responsabilité, on va s'organiser en interne pour pouvoir boucher les trous. Ça, c'est une chose. Par rapport aux institutions aussi, donc, cette discussion, on va dire, avec les institutions, c'est quelque chose qu'on a quand même gardé pendant Covid parce qu'on est en train de travailler pour organiser un festival, Turn Inside Out, au CAE Théâtre. Qui sera un festival qui va présenter toutes nos productions dans toutes les disciplines, toutes les créations qu'on soutient dans le cadre de CityLab. Donc, ça fait partie un peu de ce travail d'économiser le secteur artistique, ça fait partie de ce travail de changer la programmation, changer le public dans des maisons comme celle du CAE. Et le CAE est très ouvert à ça, en fait. C'est par exemple une organisation, enfin, en tout cas, c'est une organisation qui, dans les négociations qu'on a eues avec elle, avec Agnès notamment, est ouverte à de nouvelles formes artistiques, à une nouvelle programmation. Ils essaient de nous donner le soutien nécessaire pour pouvoir mettre en place ça. Donc, ça fait partie un peu aussi de notre travail d'éducation des institutions, parce que ça veut dire que on a dû faire des réunions avec les techniciens, on a dû faire des réunions avec le pôle communication, donc, qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des artistes comme les nôtres, qui ont un cadre de référence très structuré, c'est une structure qu'on ne retrouve pas chez tout le monde. Et nous, on doit aussi faire ce travail de médiation, de comment, en tant que technicien, tu peux travailler avec un artiste qui est autodidacte, donc qui a un travail à côté, qui a d'autres horaires, qui a une autre manière de travailler, une autre culture du temps, une autre culture du travail. Donc, c'est quelque chose qu'on a continué et qu'on continue à faire en parallèle. Et puis, il y a d'autres initiatives aussi par d'autres organisations, comme encore une fois le CAE, qui offre la possibilité au Space de s'installer au CAE Studio avec le projet Headquarter of the Movement, qui permet en fait d'offrir un espace physique à une structure qui aussi impulse des projets bottom-up, souvent des artistes qui sont passés par CityLab, qui passent par le Space, qui passent par Café Congo, qui passent par Zinema. Enfin, c'est un petit réseau, donc ça, par exemple, c'est un bon exemple en fait de négociation entre une initiative bruxelloise informelle, mais j'aime pas du tout ce mot, tel que le Space, qui s'implante dans une maison comme le CAE Studio et qui permet d'avoir un espace physique, des financements et du soutien pour pouvoir développer des projets. Ça, je trouve que c'est avec la liberté que le Space a toujours eu et aimerait toujours avoir. Donc ça, par exemple, c'est un bon exemple de bonne collaboration entre institutions et mouvements bruxellois militants, quoi.
Je peux rebondir là-dessus?
Oui,
cette discussion avec les institutions a continué entre CityLab et, comme tu donnes l'exemple, par exemple, le CAE Théâtre, et on a fait le travail de planification et aussi de négociation pour permettre d'avoir ce festival, de donner forme à ce festival. Donc, ça sera en mars 2021. Mais je trouve que dans ces discussions et dans ces négociations, comme tout se passe online, l'espace de discussion est quand même très limité. Et donc, On a établi un cadre et on a enfin, un cadre financier et un cadre dans lequel on va travailler. Mais je trouvais quand même, enfin moi, il me manque une rencontre physique avec l'équipe pour pouvoir mettre les points sur les i, sur comment est-ce qu'on va travailler, quelle est notre méthodologie et de quelle manière est-ce qu'on vous demande de vous adapter par rapport à cette méthodologie que nous, on utilise et dans l'attitude vis-à-vis des artistes. Donc, je trouvais pendant le Covid, une des choses qui était très frustrante, c'était, oui, on pouvait partager des informations. En petits groupes, on pouvait aussi échanger nos idées. Mais la vraie discussion ou négociation qu'on fait d'habitude au sein des institutions, il y avait une sorte de frein pour vraiment échanger nos idées. Et donc, il faut que ces discussions auront lieu pour que vraiment ce cadre se solidifie, je trouve.
Ok, merci beaucoup. Je crois que ça fait une bonne heure là qu'on est en train de parler et j'ai pas envie de prendre plus de votre temps, mais je voudrais quand même vous donner la dernière parole. Donc, si ou bien vous avez encore des éléments urgents que vous avez envie de partager qui font partie de votre travail, j'aimerais bien les entendre et je serais aussi intéressé peut-être si les auditeurs ou les auditeurs peuvent trouver des trucs importants concernant votre travail en ligne. Sur Facebook, je sais pas où, quels sont en fait vos liens de contact où ils peuvent trouver tout ça. Et en même temps, je vais mettre ça aussi sur la page web où ils peuvent trouver la conversation. J'aimerais bien aussi mettre des liens où les gens peuvent trouver votre travail et aussi le travail des gens avec qui vous travaillez. Est-ce que vous avez quelques liens ou quelques endroits en ligne intéressants à savoir pour avoir encore plus de connaissances de ce que vous faites?
On a un site internet, mais donc on est dans le site de Piano Fabrique. Il suffit de cliquer dans CityLab et normalement il y a une présentation non exhaustive des projets qu'on soutient. On peut aussi nous trouver sur Facebook. Aussi, si on a envie de découvrir vraiment en fait qu'est-ce que CityLab fait et quels sont les artistes qu'on soutient, on invite tout le monde au CAI au mois de mars 2021. Pour le festival Inside Out Festival, parce que ça va vraiment regrouper toutes nos productions et plus que nos productions, les dynamiques à Bruxelles qui sont importantes. On va aussi leur laisser de l'espace pour pouvoir prendre la parole. Voilà.
Mais on a quand même donc toutes les nouvelles qui se trouvent sur notre page Facebook qui est donc CityLab Piano Fabrique. Et on invite tout le monde à nous liker et à effectivement suivre les événements qui s'organisent. Et on espère très fort qu'en mars 2021, on peut en grand nombre accueillir plein de gens qui viennent apprécier le travail qui est créé au sein de CityLab. Et puis pour terminer, j'aimerais juste, oui, peut-être rajouter que tu demandais un peu où est-ce que se trouve la priorité de votre travail, parce que c'est effectivement l'accompagnement artistique qu'on fait jusqu'à ce que des créations prennent forme. Mais on fait, donc on en a parlé beaucoup, mais on fait aussi un travail au sein des institutions. Pour nous, par contre, ça reste toujours important de garder le focus et de garder la priorité chez les artistes et donc de renverser vraiment les logiques, mais aussi les dynamiques, dans le sens où les institutions essaient de demander beaucoup de notre attention et de demander beaucoup de notre énergie pour devoir nous justifier, pour devoir nous légitimer, pour nous défendre. Et entre nous, entre collègues, mais aussi ensemble avec les artistes, on essaie de ne pas être dans cette demande d'explication, mais d'être dans une dynamique d'expression et donc de donner le focus et de donner la plupart de notre énergie dans la création artistique. Parce que c'est là où se trouve pour nous la priorité et le sens de notre travail.
Wow, merci, merci Johanna pour avoir bien résumé les choses les plus importantes de cette conversation. Et je suis sûr aussi qu'il y a encore plein d'autres choses que CityLab est en train de faire et dont on pourrait parler. Mais j'espère avoir l'opportunité de peut-être refaire cette conversation dans 6 mois ou dans un an pour voir où on en est à ce moment-là, parce que je crois que le monde change très très vite. Et j'aimerais bien vous remercier pour avoir pris le temps de parler de votre travail, qui est fascinant et qui est super important, et que j'espère ouais, que ça s'amplifie encore plus dans le futur. Voilà, Samira, merci beaucoup. Johanna, merci beaucoup. On se reverra peut-être en live très très bientôt, et sinon, ce sera en ligne. Hein.
Merci à toi d'avoir créé cet espace de parole et de conversation. Pour moi, c'était super intéressant. Merci si vous passez encore une belle journée.
Ouais, vous aussi, ciao.
Merci.